Interrogeons l'histoire, cherchons partout lumière et vérité.
Ce vendredi, un témoin venu d'Alsace, Germain Müller, 1923-1994. 15 ans, 20 ans, non. C'est pendant un demi-siècle quasiment que Germain Müller et sa fine équipe ont exercé le art de la satire. Mais les Français méconnaissent l'esprit alsacien, qui serait si utile pourtant. Avec lui, on est toujours sûr que le contraire aussi est vrai. Müller, pour notre malheur, n'a connu personne à Paris qui lui offre une plateforme moqueuse, comme aujourd'hui France Inter. À nos meilleurs amis, les Belges, si Jacques Martin, qu'il avait formé, disait sa dette, mais qui prenait au sérieux Jacques Martin. L'Alsace ne se reconnaît aucune supériorité, mais quand elle se compare, elle se dit que le souvenir de Germain ne doit pas être jeté dans le Rhin. Une sculpture vient d'être inaugurée aux portes de Strasbourg, sur un banc de grès, une Alsacienne de bronze qui porte un parapluie. « Rien ne ressemble plus, disait Müller, à une Alsacienne qu'une badoise de l'autre côté de l'eau. » Sauf que jamais une badoise ne nommera son parapluie « Parabli ».
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
En ce début d'année, la municipalité de Strasbourg rend hommage à Germain Müller avec deux expositions qui ouvrent, l'une au musée alsacien et l'autre au musée historique. Les changements de temps, l'Alsace en a beaucoup connu. 1939, l'un des derniers, Germain a 16 ans. Le couloir venteux du Rhin entre la France républicaine et l'Allemagne hitlérienne, dans lequel il se tient un peu de guingois, lui rappelle furieusement le corridor de Danzig où va se déclencher l'incendie de la guerre.
Je m'appelle Igor Askorovitz. Je suis de quelque part un corridor entre deux familles qui ne sont pas d'accord. Je m'appelle Igor Askorovitz avec un nom comme ça, et quand on est de corridor, il faut coucher dehors. Je connais les queues de tous les bourreaux des étrangers du monde et je vis toujours entre un visa accordé et un visa refusé. Je m'appelle Igor Askorovitz. Je suis de quelque part un corridor entre deux familles qui ne sont pas d'accord. Et ce sont toujours les gens du corridor qui ont tort. Tort d'abord parce qu'ils sont du corridor et tort aussi parce que les autres, ils ne sont pas d'accord. Je sais, c'est un grand tort de ne pas avoir de patrie. Il en faut une de patrie, il en faut une tous les jours pour la fiche de police de l'hôtel. Mon père avait une patrie, c'était une grande patrie, une belle patrie. Je ne me rappelle plus laquelle, on en a tellement changé dans le corridor. Mais c'était une vraie patrie avec des généraux, des revues militaires, un drapeau et tout et tout. Un jour, mon père à la guerre, il est parti. Il m'a dit comme ça, Igor, je m'en vais me battre pour la patrie. Je m'en vais me battre pour que tous les Raskorovitz du corridor, ils ne couchent plus jamais dehors, et pour que le monde demain, il soit meilleur. Mon père est mort pour la patrie. Et le monde, il n'est pas meilleur. Et les petits Raskorovitz, ils couchent toujours dehors. Moi, on m'a dit, Igor, il faut que tu choisisses une patrie, n'importe laquelle, il faut jouer. Alors j'ai misé, et quand les grands croupiers, ils ont dit que les jeux, ils étaient faits, je n'ai pas osé retirer ma mise. Et je suis resté sur les tapis. Depuis, je traîne ma valise de pays en pays, à Ematlos, sans patrie. Je m'appelle Igor Askorovitz, je suis de quelque part un corridor entre deux familles qui ne sont pas d'accord.
Septembre 1939. En même temps que la guerre est déclarée, Paris décide de mettre hors d'atteinte les 360 000 habitants de l'agglomération de Strasbourg. C'est vécu comme un abandon. En quelques jours, la ville est évacuée. La famille de Germain, une famille de fonctionnaires, est dirigée en toute hâte vers le sud-ouest.
Toute la ville de Strasbourg, Strasbourg et ses environs, ont été évacués dans le Périgord. Alors les Alsaciens sont arrivés, on les a logés dans des conditions souvent indignes. Et elle n'était surtout pas préparée psychologiquement. Les braves gens d'Alsace, dont 50% ne comprenaient même pas le français à cette époque. se sont trouvés tout à coup parachutés dans ce Périgord. Et pour les Périgordins, ce n'était pas drôle, ils n'étaient pas avertis non plus. Hein, et je vous dire qu'à ce moment-là, la France était en guerre avec l'Allemagne et que notre dialecte a malgré tout beaucoup de similitudes avec la langue allemande, de ressemblances gutturales. Et au début, les Alsaciens n'étaient pas bien vus du tout. On nous traitait de mâcheurs de paille et de yaya. Mais enfin, au bout de quelques mois, ça s'est heureusement arrangé. Enfin, je dis que les Périgourdins n'ont pas été très accueillants, mais les Alsaciens, eux aussi, étaient forcément un peu puérils. Arrivés là-bas, et ils traitaient presque ces gens avec dédain parce que leurs installations sanitaires ne correspondaient pas encore à notre standing. Et ma mère, quand elle est arrivée, avec ses deux enfants, était malheureuse d'avoir fait faire cuisine dans une mansarde. Il n'y avait même pas dévié, n'est-ce pas, c'est, l'eau devait découler sur le toit. Enfin, c'était vraiment des conditions très très précaires. Et cette dame Marseille qui ne nous connaissait pas, ce monsieur Marseille, nous voyant malheureux comme ça, dit, mais qu'est-ce qui va pas, madame? Ma mère a dit, oh, vous savez, c'est... Moi, c'est quand même terrible d'avoir à faire la cuisine. Alors, elle dit, bon, écoutez, ça peut peut-être s'arranger. Vous pourriez peut-être prendre une heure. On ne mangerait pas en mêmes heures. Et puis, vous utiliseriez la cuisine ou avant ou après. Nous, c'était déjà un premier pas. Ma mère a donc pu faire la cuisine. Mais je vous dis tout de suite, au bout de 3 mois, on mangeait ensemble.
En août 1940, la défaite consommée, la famille Müller décide de rentrer. A-t-elle mesuré le coût de la décision ? L'Alsace, devenue allemande, est en effet nazifiée à grands pas sous l'autorité discrétionnaire du Gauleiter Wagner. C'est de l'autre côté du Rhin, à Karlsruhe, que Germain va se former aux arts de la scène. Mais en 1943, son père est arrêté et lui-même est enrôlé dans la Wehrmacht. Il s'en échappera au bout de peu de semaines, en octobre, pour rejoindre la Suisse. Et le 23 novembre 1944...
Les rues s'animent. Strasbourg s'éveille à son premier jour de vie française. Les bouquets et les cocardes la fleurissent soudain. Sur la place, d'où les Allemands ont arraché la statue de Kléber, le général Leclerc, qui, au cœur de l'Afrique, avait fait le serment de délivrer Strasbourg, vient dire aujourd'hui que ses hommes et lui ont tenu parole. Ces bravos, ces cris retentissent dans le cœur du pays tout entier. Strasbourg est libre. Toute la France a crié ces mots, frémit de cette joie. Et c'est toute la France qui salue ce premier drapeau qui marche à travers une ville dont les faubourgs débouchent sur le Rhin. Dans le soir qui tombe, la joie éclate. Les Alsaciens acclament ces soldats venus pour eux de toutes les régions de la France et de son empire. La plus personnelle de nos provinces, c'était aussi la plus française.
Kerlevilide, pim-pom, pim-pom, Frites-Lokelide, Kerlevilide, Frites-Lokelide, Kinderbeschritzide.
La voix de Strasbourg libérée, c'est le nom exact de la mission Radio Strasbourg, constituée pour épauler l'administration qui se met en place derrière le général Leclerc. Germain Müller en est, et dans le minuscule studio, commence à se constituer une ébauche de bande. Avec Raymond Vogel, Mario Hirlé, le pianiste, accordéoniste, compositeur, et Dina Faust, qui a aussi tous les talents et celui de séduire Germain Müller. Mais Strasbourg, les Français de l'intérieur en sont-ils vraiment conscients à l'époque ? Ne tient qu'à un fil.
Cette libération n'a pas été tout à fait ce qu'on pensait. Parce que nous étions nubilés par ces tableaux de la libération de 1918. Mais il faut bien dire qu'à ce moment-là, la libération de 18 s'accompagnait de l'armistice, tandis que la libération de l'Alsace s'est faite en temps de guerre. Il y avait un sentiment de reconnaissance extraordinaire vis-à-vis des soldats, mais il n'y avait pas cette gaieté insouciante qui était celle de 1918. Et en plus de ça, on avait très nettement l'impression que l'opinion publique en Alsace était congestionnée. Ces 4 années d'occupation, de servitude nazie, de chicane. Les Alsaciens n'ont pas pu s'en défaire du jour au lendemain. Et quand pendant 4 années, vous avez tellement souffert, vous avez tellement eu de crainte, eh bien, vous ne vous habituez pas en 24 heures à la liberté. Oui, je pense qu'il nous a fallu beaucoup d'humour pour traverser certaines périodes de notre vie. Il en a fallu énormément durant la guerre, durant les 4 années d'annexion. Les Alsaciens n'ont jamais perdu leur humour. Ils l'auraient presque perdu le 3 janvier. À mon avis, la date la plus dramatique pour l'Alsace. 3 janvier 45.
C'était quoi ?
Oh, c'était terrible, n'est-ce pas ? L'Alsace avait donc été libérée, non pas entièrement, parce qu'il restait cette poche de Colmar. L'Alsace avait été libérée fin novembre. Et il y a eu changement de disposition. Rundstedt a attaqué dans les Ardennes. Les Américains, qui n'étaient d'ailleurs jamais très chauds pour avancer si vite, les Américains voulaient hiverner sur les Vosges. Et c'est Leclerc, fidèle à son serment de Couffrat, qui a dit « Ah non, maintenant je perce sur Strasbourg ». Et les Américains avaient bien quelques troupes ici, mais enfin pas grand-chose. La première armée dont nous étions, je crois, était occupée à résorber la poche de Colmar. Et Strasbourg se trouvait du jour au lendemain dégarni. Et nous nous rendions bien compte que les Américains partaient, qu'il n'y avait rien pour les remplacer. Et les Allemands commençaient à attaquer. Ils traversaient, des commandos allemands traversaient toutes les nuits le Rhin et nous nous sommes trouvés complètement abandonné. Figurez-vous cette situation psychologique après 4 années d'occupation, après la libération étant venue, et quelques semaines après, on se retrouvait en juin 40, avec les Allemands qui pouvaient revenir d'un instant à l'autre. Et ça, c'était pour l'ensemble de l'Alsace, ça a été certainement le moment le plus démoralisant et peut-être le seul instant où les Alsaciens ont perdu la foi et en même temps l'humour, cet humour qui leur avait fait tant de bien pendant la guerre. Le maire Charles Frey, alors que tous les fonctionnaires étaient repartis, vous savez, tous ces fonctionnaires qui étaient venus, toute la préfecture était évacuée, les gendarmes étaient partis, vous avez laissé absolument seul, tout seul ici. Et à ce moment-là, le maire Frey, qui ne se promenait jamais, il avait horreur de marcher à pied, pour la première fois de sa vie, je crois, traverser Strasbourg pour donner confiance. C'était très joli.
Il faudra attendre mars 1945 pour que Strasbourg se sente vraiment hors d'atteinte. Et le temps qui commence alors est enfin différent. Germain s'habille très ajusté, sa silhouette peut encore le lui permettre. Il mange ostensiblement des sandwichs. Il fréquente le Prisunique qui vient d'ouvrir. Ses amis et lui organisent des spectacles avec Piaf et les Compagnons de la Chanson. Ils font du jazz, des émissions publiques pour Radio Strasbourg. Et le premier Barabli s'établit, d'abord à l'Aubette, place Kléber, et trouve son style contre la congestion, l'ironie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'épuration est pour le Barabli matière de choix. Elle s'exerce à la haute cour de justice, en simple cour de justice, ou pour le menu gibier dans des chambres civiques. Chambres civiques, c'est le titre du premier grand succès du Barabli en 1947. Celui qui comparaît, c'est un lampiste, vraiment un lampiste. D'ailleurs, il s'appelle Lampele. Il figurait dans les chasses du Gauleiter Wagner, lequel rabattait les jeunes hommes pour les armées d'Hitler.
Charles-Antoine Lampele, vous savez ce qu'on vous reproche. Sie wissen, was man Ihnen vorwirft.
Ja, ich weiß es, ja.
Sie gehen also zu, dass Sie mit dem Gauleiter Wagner auf die Jagd gegangen sind.
Aber Sie stellen dabei, wenn ich so, dass ich mit dem Herrn Wagner auf die Jagd bin. Ich meine, sind also noch andere dabei gewesen. Der Gauleiter und ich sind allein miteinander auf die Jagd gegangen. Sind also noch andere Herren mitgekommen. Zum Beispiel
der Herr
Dimpf und der
Silence ou je fais évacuer la salle. Lampele! Je vous demande pour la dernière fois, en quelle qualité avez-vous accompagné le Gauleiter à la chasse? In welcher Eigenschaft haben Sie den Gauleiter Wagner auf die Jagd begleitet? Lampele, dites la vérité!
Toute la vérité!
Rien, la vérité!
Als Driver,
il nous importe peu qu'il ait participé à ces battues en tant que convive ou en tant que rabatteur, s'il y a participé, ou en tant que convive, nous mettons cela sur le compte d'une responsabilité morale. Il prétend qu'il y a participé en tant que rabatteur, et nous mettons cela sur le compte d'une responsabilité symbolique.
L'épuration. Plus tard, le procès de Bordeaux, qui met en cause des malgré nous d'Alsace impliqués dans le massacre d'Oradour. Les consciences blessées pouvaient s'échauffer vite à l'époque. Germain conçoit donc ces spectacles comme un thermostat. Il accompagne les protestations des uns et des autres, sans les porter à incandescence, sans les refroidir non plus. Le rire comme thérapeutique. La fine équipe s'élargit et le Barabli va s'installer au théâtre du Cercle, place Broglie. Celui qui, à chaque revue annuelle, y est peut-être le plus attendu, c'est Robert Breizac. Il est étalagiste de son métier, ce sera le Bourvil de Strasbourg. Il incarne à la perfection le petit fonctionnaire borné quand il s'agit des intérêts des autres et roublard quand il s'agit des siens. Les uns et les autres au cabaret balancent d'une langue à l'autre. Dina Fosse a la réputation de parler et de chanter un français parfait, un allemand pur et un alsacien naturel. Un alsacien naturel. Ben oui, sans le dialecte, il ne saurait y avoir de vérité, les deux autres langues servant souvent à dire le contraire de ce que l'on pense.
Une sorte de suspicion de la part de l'administration centrale à Paris en ce qui concerne le bilinguisme en Alsace, mais enfin, nous sommes habitués. Du temps allemand, durant les 4 années d'occupation, il n'y a pas eu une heure d'enseignement le français. On enseignait l'anglais, l'italien, le russe, tout. Vous pouvez apprendre toutes les langues en Alsace, sauf le français. C'est inconcevable, n'est-ce pas? La France est un merveilleux pays. La France voudrait être universelle, mais son universalisme est un sens unique. La France aimerait bien que le monde entier parle le français, mais elle est contre toute interpénétration. Il n'y a jamais eu qu'une chose bilingue pour qu'on ne s'entende pas mal, c'était les contributions. Encore aujourd'hui, votre feuille d'impôt est rédigée dans les deux langues pour que vous compreniez bien. Parce que ça, c'est essentiel pour l'administration. Mais pour tout le reste, on n'a jamais fait de gros efforts.
Je suis chargé par l'association des femmes de l'intérieur, qui a épousé les Alsaciens, n'est-ce pas, de faire une enquête. Parce que les femmes de l'intérieur ayant épousé les Alsaciens se plaignent beaucoup des Alsaciens.
Jacques Martin, soi-même, et oui, il a débuté au Barabli.
Est-ce que votre femme se plaint, monsieur?
Le dialecte, c'est le ça, dialecte. Quand les gens parlent le dialecte ici,
oui,
elles sont un peu dépaysées.
Et on parle énormément de dialecte, bien sûr.
Oui, on peut le dire.
Bon, alors écoutez, monsieur, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes marié à une Alsacienne?
Non, je suis marié avec une femme de l'intérieur.
C'est ça, et votre femme se plaît-elle en Alsace?
Ah oui, moi, je crois qu'elle aime beaucoup l'Alsace. Ce qu'elle n'aime pas, c'est l'alsacien. Je veux dire le dialecte alsacien.
Ah, parce que vous parlez le dialecte alsacien avec elle?
Rarement, quand même. Rarement.
Enfin, dans certaines occasions. Lesquelles?
Oui. Quand je suis en colère.
C'est ce que je voulais vous entendre dire. Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Eh bien, maintenant, je crois que le mieux est de demander à ces femmes de l'intérieur de venir s'expliquer elles-mêmes devant nos caméras.
Exilés, dépaysés, inadaptés, exposés journellement aux vexations sans fin. Irrités, désajustés, exaspérés, déséquilibrés par le climat strasbourgeois, humide et malsain, mais qui jamais dans un délire d'objectivité chantera le martyr enduré. Par les jeunes filles de l'intérieur qui par erreur pour leur malheur ont épousé des Alsaciens.
1949, le Conseil de l'Europe s'établit à Strasbourg. 1950, la création de la CECA, puis en 1957, le traité de Rome, le marché commun. L'Union naissante s'imagine accompagnée d'une assemblée qui commence à siéger à Strasbourg, capitale officielle de l'Europe à venir. Germain Müller défend avec ardeur ce nouveau rôle, enfin à la hauteur de la vocation de l'Alsace.
Nous avons cessé d'être la frontière, nous sommes au contraire le lien, nous sommes la voie du milieu, d'un golden Mittelweg, comme on dit en allemand. Nous sommes le centre névralgique de l'Europe. Ces maisons à poutres apparentes que vous retrouvez en Alsace et que vous aimez tant, ce n'est pas un phénomène typiquement alsacien. C'est une chose qui commence en se versant des Vosges et qui se prolonge jusqu'en Tchécoslovaquie, à travers le pays de Bade, à travers une partie de la Bavière, ça entre en Tchécoslovaquie. Et il y a là un lien, il y a une charnière qui, jusqu'au centre de l'Europe, il y a une sorte de clou de la civilisation qui réunit l'Europe et nous sommes une extrémité.
Porte de France. Porte de France. général pour honorer son cher et vieux blason a radicalement décrété certaines transformations.
La première impression étant toujours la meilleure et compte tenu des crédits déjà engagés ailleurs, la maison mère pour sauver au moins une de ses façades
se paye une nouvelle porte du côté de ce cher courant. C'est ici que commence le pays de la liberté. Soyez les bienvenus en France. Vous serez par nos soins les autres gâtés et joyeux. Et honni soit ceux qui du mal en pensent.
La première impression étant de très loin la meilleure, nos gendarmes et fouilleurs en ont aussi mis du leur. On ne verra plus nos douaniers mal rasés et grognons,
mais rien que des gens bien élevés et des visages coupants.
Le sourire n'étant pas dans les yeux des gens d'ici, on a dû faire appel à des hôtels du Quai Paris. Dans l'art de plumer l'étranger, tout leur est familier. Et je fouille un bonhomme sans avoir l'air merci touché.
Dans ce pays de la liberté, soyez les bienvenus en France. Venez danser avec nous sur un pied d'égalité. Et honni soit ceux qui du mal en pensent.
Guten Tag, lieber Freund, seien Sie sehr willkommen hier. Wir wollen nicht etwas, nous geben certains sourires.
Non, ne nous prêtez pas l'intention de vous demander si quelquefois vous auriez quelque chose à déclarer.
Ce serait un affront qui nous mènerait beaucoup. Vous poser des questions serait vraiment d'un mauvais goût. Excusez-nous toutefois d'avoir quelque peu abusé du temps précieux que vous avez voulu nous consacrer.
Vivement, vivement empressé et notre dévouement sincère.
Emportez, chers amis, sommes les plus distingués.
Ainsi que nos pensées les plus chères.
Ces bonnes dispositions ne visent comme de bien entendu pas nos chers Strasbourgeois et les autres gens du cru. Ceci étant par définition suspect à nos yeux.
Le seul livré à Lourdes, c'est qu'un trafic dangereux.
L'équidat de nos trois si variants départements resteront comme avant soumis aux anciens règlements. Il eût été par ailleurs trop cruel de les priver d'un régime d'exception auquel ils sont habitués.
Combien dans le réservoir, combien dans le briquet. Et surtout, ne dites pas, vous n'avez pas trafiqué. Ouvrez la malle arrière, le capot et le train avant. Enlevez votre pantalon, nous voulons voir la boîte à gants.
C'est ainsi que commence le pays de la liberté.
Pour les hommes, la souffrance.
Ceci n'envoie rien, même pas à notre respect. Ils n'avaient qu'à rester chez eux en France.
Cher et vieux pays, mes parents cugnaient pour un sou. Venez si ça vous chante jouer aux petits soldats chez nous. C'est ici que commence le pays de la liberté.
Soyez les bienvenus en France. Et marchez
bien dans
ce pays. Fils d'un gros melon, mon melon.
Dina Faust, Robert Breizac, Charles Falck, Jacques Martin sont cette porte de France qui rend hommage au pont de l'Europe qui enjambe dorénavant le Rhin. C'est un symbole fort de l'époque Flimelin qui commence. Le dernier président du Conseil de la 4e République est devenu en effet le maire de Strasbourg. Germain Müller conduit alors lui-même une liste aux élections de 1959, mais c'est pour se mettre dans les pas de Flimelin auquel il adhère de toutes les profondeurs de son être. Il devient son adjoint aux affaires culturelles. Ce n'est pas qu'il aille beaucoup à l'hôtel de ville. Son salon, c'est le restaurant italien qu'il a aménagé près du théâtre. Son bureau, sa salle à manger, où il reçoit avec derrière lui le vaisselier de ses grands-parents et devant lui une bouteille de whisky. L'Opéra du Rhin, le Palais des Congrès et de la Musique, le Centre culturel du Maillon lui doivent beaucoup, c'est que Germain sait aussi obtenir des crédits dans la capitale.
C'est Alsace, il faut la faire chanter à Paris. Quand on va demander quelque chose à un ministère, il faut à un certain moment sortir son couplet sur l'Alsace.
Et on fait comment ?
Ah ben j'avais un collègue, M. Ergman de Mulhouse, et qui était tout un spécialiste lorsque nous allions voir une administration, un haut fonctionnaire, voire même un ministre. Lui, il ne disait rien, il nous laissait traiter, négocier, et à un certain moment, il se fâchait. C'était toujours à propos d'argent, parce que quand on va voir un ministre ou un haut fonctionnaire, c'est toujours on veut obtenir quelque chose pour son administration. Et alors, il sortait son couplet et il disait « Nom d'un chien ! Nom d'un chien ! Mais, monsieur le ministre, savez-vous qu'il s'agit de l'Alsace ? Vous parlez là comme si on parlait d'une autre province, mais savez-vous ce que l'Alsace a souffert ? Vous nous avez déjà lâchés en 70, vous nous avez lâchés en 40, et maintenant vous voulez pas lâcher quelques malheureux millions ? Allons, monsieur le ministre, cette fois, l'Alsace ne marche pas. » Et ça marchait à tous les coups, le ministre marchait, et il débloquait l'argent.
Les bureaux à Paris, la municipalité à Strasbourg, le Barabli qui poursuit sa course, c'est bien, pense Germain Muller, de faire beaucoup de choses. On se repose d'une chose dans une autre, et c'est le bonheur. Et tout va cesser d'un coup, en 1988-1989, sans qu'on sache bien quelle cause a entraîné quelles conséquences. L'arrêt du Barabli à cause du vieillissement de ses fondateurs, la défaite au municipal face à la nouvelle équipe de Catherine Trautmann. Germain Muller repiquera cependant une dernière fois au spectacle.
Vous savez, j'étais démoralisé à un certain moment. Et puis, j'étais peut-être un peu fatigué aussi. Et non seulement moi, peut-être mon entourage aussi. Mais il y a, dans les anciens du Barobli, il y a une telle vitalité. Il y a ce Robert Braza qui a 77 ans cette année et qu'il dit qu'il va absolument jouer, qu'il jouera jusqu'au bout et que son médecin lui a conseillé, au contraire, de rester sur les planches. Et puis, il y a des éponges d'inspiration qui se vident parfois, et puis elles se remplissent de nouveau. J'ai l'impression que cette année, l'éponge était bien remplie. Mais ce que vous disiez, José, est exact. J'avais pensé à faire évoluer la forme. Eh bien, je crois que je vais vous surprendre. J'ai fait évoluer la forme. Peut-être pas dans le bon sens, dans le sens du mot bon sens, puisque j'ai pléthore de comédiens et de danseurs cette année. Au lieu d'être 13 ou 14, nous sommes 21 avec les musiciens. C'est pas très raisonnable pour un théâtre non subventionné, mais j'ai considéré ça comme une fuite en avant. Et c'était la seule façon de me réalimenter en jeune fille et jeune garçon.
À la première du dernier spectacle en 1992, la salle debout acclame Germain Muller pendant 10 minutes. C'est lors de la représentation du lendemain qu'une attaque cérébrale le saisit. Des mains invisibles le soutiennent pour qu'il joue tout de même sa partie, fasse rire une dernière fois. Il ne remettra pas les pieds sur scène et mourra en 1994. Strasbourg consacre à Germain Muller deux expositions en ce début d'année, l'une au musée alsacien, l'autre au musée historique. Lina a édité un DVD avec notamment un documentaire à lui consacré par son fils Patrice. Cette émission qu'a préparé Marion Philippe a largement utilisé, outre ce film, un numéro de la grande série Les Conteurs qu'André Voisin avait diffusé en 1967. La réalisation, Jacques Sigal, la technique, Christian Gratalon.